19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Oui, c'est le direct. Bonsoir, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir. Et nous sommes ensemble pour analyser, commenter, mais aussi décrypter l'actualité. C'est parti. Durant une heure, nous sommes ensemble avec du beau monde, des débatteurs influenceurs qui sont ici déjà présents sur plateau. Quelques petites galères, m'a-t-on dit, dans les bouchons, n'est-ce pas, Rafik?
Tout à fait.
Notre élu qui se plaint. Bah, allez vous adresser à Anne Hidalgo. Vous verrez ce qu'elle va vous
répondre. Les bouchons.
Exactement. Jimmy Dalidou qui sont là, ça y est, ils sont prêts. Juste avant, nous recevrons un invité justement concernant les législatives, parce que vous le savez, les informés, c'est surtout les législatives. Parce que Linda Aït-Meshag est avec nous. Est avec nous dans une poignée de minutes pour parler de son investiture. Alors, au programme, nous allons revenir, vous savez quoi, sur ce remaniement, avec notamment, ça commence déjà à taper fort. Il y a un candidat dans la 6e circonscription du Calvados qui lui dit vouloir affirmer mettre à la retraite la nouvelle patronne de Matignon. Vous savez que ça commence à faire du bruit, hein. Elle a 61 ans. Bon, alors, Borne, finalement, est-ce le bon choix? On en parlera tout à l'heure. On est en train de décrypter cette actualité, mais surtout, j'ai quelques bribes de couloir concernant des noms de personnalités qui circulent pour être au gouvernement. Ensuite, autre sujet, c'est la guerre en Ukraine, avec le Kremlin qui dénonce une tentative d'isolement dans le monde. On en parlera, finalement, est-ce qu'il a perdu la guerre, Vladimir Poutine? On en parlera. Et puis, autre sujet aussi, les quartiers. N'est-ce pas un peu les grands oubliés de ces législatives? Les oubliés aux présidentielles, les oubliés aux législatives. Attention, je ne suis pas en train de confirmer. Je suis en train de poser une grande question. La question avec un grand point d'interrogation. Voilà, on en parle, mais aussi avec vous au 01 53 48 3000. C'est parti, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, c'est parti, nous sommes mardi.
Les informer, l'interview.
Et c'est avec une investiture, vous le savez, avec Linda Aït-Meshad. Meshkad, pardonnez-moi, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Bonjour Linda.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Je vais bien, je vous remercie, merci de m'accueillir parmi vous.
Écoute, avec plaisir, tous les jours on aura le droit à des investitures, des gens, justement, paraît-il. Est-ce que vous, tiens, je vous pose la question, vous qui êtes investi, vous êtes mère de famille, vous êtes infirmière, vous êtes engagée. Vous êtes engagée depuis combien de temps dans la vie politique, Linda Aït-Meshad?
Écoutez, moi là-bas, j'étais engagée surtout dans le monde du syndicalisme et puis vraiment impliquée en politique, on va dire, depuis 2016.
Vous êtes candidate, vous êtes vice-présidente de l'UDI dans le 93, en charge de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les violences conjugales. Vous êtes infirmière, vous êtes maman de deux enfants, et vous avez décidé de, justement, vous inscrire dans ces législatives, dans la 11e circo du 93. Où précisément?
Eh bien, la 11e circo comprend les trois villes, Sevran, Villepinte et Tremblay en France.
Pour quelle partie?
Eh bien, l'UDU, oui, je suis centriste, donc je m'inscris dans cette politique-là. Donc, du coup, c'est l'UDI, c'est mon parti qui m'a investi, oui.
Avant de parler de votre investiture, mais surtout de parler de vous, de votre engagement, ma chère Linda Aït-Meshad, tout d'abord, première question. J'ai parlé au sommaire, justement, que les quartiers populaires étaient un peu les oubliés de ces législatives. Je vous pose la question, est-ce une réalité?
Est-ce une réalité? Disons que, en plus, cette élection-là, elle est assez particulière. Oui. Elle ressemble un petit peu comme l'étaient les présidentielles. C'était aussi une élection qui ne ressemblait pas à toutes les autres. Nous avons fait un front républicain. Nous avons élu donc un président. Les gens ont dû voter pour éviter le pire.
Oui.
Il est évident qu'aujourd'hui, ils vont attendre à ce qu'ils aient des députés qui remontent leur inquiétude et qui sont à leur écoute,
oui,
et qui vont travailler, œuvrer pour que leur vie soit meilleure.
Oui.
Malheureusement, eh bien, c'est pas ce qu'on voit.
C'est pas ce qu'on voit. Votre investiture, quel sens donnez-vous à votre investiture et quel sens donnez-vous justement à votre engagement? Qu'est-ce qui finalement vous a poussé à vous inscrire dans ces législatives, Linda Aït-Meshad?
Aït-Meshad.
On dit Meshad?
On dit Mefrat, oui.
Ah ben, excusez-moi. Moi, j'ai compris que... Je suis désolé. Il faut me corriger. Non, attendez. Moi, j'aime pas écorcher les noms. Si vous me dites si on dit Ait Mezrat, on dit Ait Mezrat.
On dit Ait Mezrat.
Alors, Ait Mezrat, autant pour moi.
Bon, alors, sur ma circonscription, c'est pas une circonscription facile. Hein. Je veux dire, on n'y va pas comme ça. La députée actuelle sortante, c'est une insoumise. C'est une personnalité qui est connue des médias. Elle est très, très souvent sur les plateaux de télévision. Madame Autain, pour la nommer.
Christine Autain.
Clémentine Autain.
Clémentine.
Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui peut pousser une citoyenne comme moi à se dire oui, je vais y aller? Eh bien, c'est exactement ce qu'on disait juste avant.
Oui.
C'est la conjoncture actuelle. Nous avons cette union populaire qui n'a de populaire que le nom. Nous avons un candidat qui a perdu aux élections présidentielles, qui décide de jouer une troisième partie et de s'autoproclamer premier ministre, et des candidatures de gauche qui sont complètement perdues, puisque il faut faire des choix et qu'on continue à parachuter dans les circonscriptions des ténors de la France insoumise pour qui se présentent à vous en vous disant nous sommes là pour élire Monsieur Mélenchon Premier ministre, mais c'est une plaisanterie.
Oui.
Sur ma circonscription, nous avons eu une députée qui avait été poussée, hein, vraiment, par le maire de ma ville, Tremblay en France, Monsieur Assensi pour ne pas le nommer, qui a vite déchanté et qui a fait un monde honorable. En nous écrivant un tract de 4 pages pour nous dire à quel point il s'était trompé sur la personne, puisque notre députée, nous l'avons jamais vue sur la circo. Elle a été aux abonnés absents tout le temps, elle ne s'intéresse pas à nous.
Je vois que les règlements de compte commencent, la campagne n'a pas démarré.
Ce ne sont pas des règlements de compte, monsieur. Vous dites pourquoi? Qu'est-ce qui peut amener des citoyens à s'engager? C'est parce que beaucoup de personnes qui sont élues, qui sont sur place, ne nous représentent pas. Mmh. Ce ne sont pas des gens qui habitent les villes où nous habitons.
Oui.
Ce ne sont pas des personnes qui fréquentent les écoles où nous mettons nos enfants.
Donc,
ce sont
halte au parachutage,
absolument.
C'est ce
absolument.
Que je comprends. Oui.
Donc, du coup, oui, voilà.
Donc, les personnalités des quartiers populaires ont décidé de se prendre en main.
Absolument, oui. Moi, je suis ravie. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux peuvent le remarquer aisément. Je soutiens et je pousse les candidatures de tous les gens qui sont citoyens et qui veulent être acteurs de leur destin et qui se présentent pour représenter la population avec laquelle ils vivent. Personnellement, je suis très heureuse que l'UDI ait investi des citoyens, notamment des citoyennes sur le département. L'UDI investit plusieurs femmes et la militante pour l'égalité femmes-hommes que je suis ne peut que s'en réjouir.
Dites-moi, vous parlez d'un modèle, c'est celui de Simone Veil. Pour quelle raison?
Écoutez, parce que c'est une femme qui m'inspire et de plus, voilà, cerise sur le gâteau, c'est une centriste. C'est l'une des femmes qui a fait le plus pour l'égalité femmes-hommes et c'est elle qui m'a donné vraiment, quand je cherche autour de moi un modèle en politique, c'est elle que je vois.
Alors le modèle, justement, vous êtes une fervente militante depuis plusieurs années. Vous défendez notamment la diversité, l'égalité des chances, bref, tous les sujets qui préoccupent les quartiers populaires. Finalement, votre candidature, votre investiture, comment vous voulez la défendre durant cette campagne ?
Écoutez, je vais la défendre sur ce que je sais faire le mieux, c'est d'être dans ma ville, et je serai le plus souvent dans les deux autres villes de la circonscription que je connais par ailleurs. J'ai habité 3 ans à Sevran, j'ai habité 5 ans à Villepinte, et depuis j'ai déposé mes bagages à Tremblay. Mes filles sont nées. Je travaille dans le département depuis 30 ans. Donc, quand vous êtes infirmière et que vous avez fait des années et des années de maternité, je peux vous dire que vous connaissez avez un grand nombre de personnes que vous rencontrez dans la rue. Pendant la campagne des départementales, ce qui m'a vraiment touchée, c'est au moment des tractages, d'avoir des jeunes filles qui me disent « Ah, madame, c'est vous sur l'affiche !»« Oui, c'est moi !» et franchement, c'est touchant. Moi, l'humain avant tout, et toutes ces jeunes femmes qui « Oui, c'est moi !»« Ah, mais vous êtes la maman de... »« Oui, oui, c'est moi !» et j'ai vu une telle satisfaction dans les yeux de toutes ces toutes jeunes filles tremblésiennes et des villes du canton que je me suis dit, bah, pour les législatives, même si ça paraît compliqué, même si ça paraît dur, eh ben, il faut y aller quand même. Il faut qu'aussi l'espace soit occupé par une personne comme moi.
Oui.
Et qui, j'ai envie de re-rencontrer ces jeunes femmes, oui. Ces jeunes filles, leur dire, ben voilà, vous pouvez
vous
y aller.
Vous y croyez aussi, sur le département du 93 où justement les mélancholistes l'ont très nettement emporté? Vous, comment comptez-vous justement placer votre stratégie pour aller arracher justement cette place au sein de l'hémicycle?
Écoutez, moi, ma stratégie, elle est simple, comme la personne simple que je suis au quotidien. Moi, j'ai un seul message à dire à nos concitoyens. Voilà, je me présente à vous pour cette échéance. Je suis celle que vous rencontrez dans vos rues. Je suis celle qui prend le bus avec vous. Je suis celle qui fait ses courses dans les chez les mêmes commerçants de proximité que vous. Là, vous voyez, j'ai dû me poser. Je viens de sortir de chez mon boucher. Je me suis posée dans une salle d'attente pour vous parler. Donc, je suis celle que vous rencontrez partout. Et ben, moi, je sais quelles sont vos problématiques. Aujourd'hui, sur l'égalité salariale, j'ai travaillé longtemps à la CFDT pour ça. Sur l'égalité des chances, sur l'éducation, j'étais dans les associations. Je sais quelles sont les problématiques, mais peut-être qu'il faut mettre à l'Assemblée nationale des gens comme moi qui ne sont pas, voilà, des gens hors sol, qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne vivent pas au quotidien. J'ai envie d'être une élue au plus près des citoyens. Et
Linda et Mesrat, dites-moi, vous êtes donc candidate, c'est officiel, dans la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette population, aux habitants de la 11e circonscription? S'ils vous écoutent, ils sont nombreux à vous écouter.
J'ai envie de dire aux habitants de la 11e circonscription ce que j'ai envie de dire aux habitants de tout le département. Ce département, je l'aime énormément. Il a toute cette jeunesse, toute cette vivacité, il faut lui donner sa chance. J'ai envie de leur dire, eh bien, déjà, d'aller voter, parce que beaucoup se désintéressent de ça, et surtout de voter, mais le bon vote, hein, pas du tout de se laisser entraîner dans cette histoire de « il faut voter pour jouer une troisième partie ». Pour permettre à un monsieur complètement, voilà, d'être Premier ministre. Non, pas du tout. Votez pour les gens qui vont parler de votre quotidien. Votez pour les gens qui vont amener à l'Assemblée nationale le thermomètre de comment est votre vie et qu'est-ce qu'il faut pour l'améliorer. Voilà, votez pour les gens qui vous ressemblent, voilà, qui vivent le quotidien, le même quotidien que vous.
On aura l'occasion de revenir, Linda et Mesrat, justement, concernant votre investiture. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance. Mais il faudra évidemment revenir sur le plateau ici même pour développer un peu plus.
Avec grand plaisir.
Merci, Linda et Mesrat, à vous d'avoir été avec nous. Candidate centriste donc de la du 93, de la 11e circonscription du 93. Allez, le face-à-face, c'est parti. Je vais saluer nos amis influenceurs.
Les informés, le face-à-face.
Rafik Temgari. Oh là là.
Exactement, Temgari.
Ça fait tellement longtemps que vous n'êtes pas venu que j'en oublie le nom. Qui est un élu, justement, de Rueil-Malmaison. Comment ça va, monsieur le conseiller municipal?
Très bien, cher Adil. Merci encore une fois pour l'invitation.
Mais c'est normal.
Toujours un plaisir d'être là.
Oui, mais vous êtes chez vous ici.
Bah, merci.
C'est là que ça se passe.
Avec plaisir.
Autre débatteur, justement, qui est représentant de la CGT, mais aussi auteur.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Jimmy Dalidou, comment ça va?
Ça va.
Tranquille. Messieurs, nous allons commencer avec ce premier sujet juste après la pub, justement, concernant la toute nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Vous êtes OK? C'est bon?
C'est parti.
Et après la pub. À tout de suite. Ne bougez pas. Restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est tout de suite, mais surtout avec vous, les auditeurs. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On vous donne la parole et vous vous emparez justement de ces commentaires. On a besoin aussi de vos commentaires. Allez, Rafik Temgari et justement Julien Jimmy Dalidou, qu'est-ce que vous pensez de notre toute première ministre Elisabeth Borne? Est-ce que c'est finalement le bon profil pour démarrer justement ce nouveau quinquennat? À la fois ça, et elle commence à se faire notamment tacler par certains. Par exemple, hein, je vois quelques dans le Calvados, tiens, quelqu'un qui veut mettre à la retraite la nouvelle patronne de Matignon alors qu'elle vient d'être à peine nommée. Enfin, comment doit-on interpréter ça? Quelle grille de lecture doit-on avoir?
Alors, tout d'abord,
Rafik Temgari.
Merci Adil. Tout d'abord, félicitations à elle parce que je suis très content. Enfin, une femme. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une femme, je pense que c'est 30, plus de 30 ans, 31
30 ans,
ans,
30 ans
qu'on
n'a
pas
ça,
eu
30
de 30 femme à Matignon. Après, donc c'est vraiment très très bien, moi je trouve que c'est très très bien, ça fait encore une fois un signe fort du président de la République. Donc ça c'est le côté positif, donc on lui transmet nos félicitations. Après, je pense que je dirais pas que le profil c'est vraiment une technocrate, donc ça on le sait, et que encore une fois, le président c'est lui qui va décider de tout. Donc il y a pas ce pouvoir, ce contre-pouvoir du premier ministre. Donc mon avis c'est que aujourd'hui il a nommé une technocrate et que ça n'a pas vraiment avancé le système politique.
Le système politique. Jimmy Dalidou, vous dites quoi?
Ouais, alors que ce soit une femme c'est très bien évidemment, mais je pense qu'on devrait se concentrer plutôt sur le terrain politique. Voilà, je suis d'accord avec toi, Rafik, sur le fait que c'est une technocrate comme tous ses compagnons de l'Élysée, d'ailleurs, comme tous ceux du gouvernement. Hein. Technocrate bien fermé par les écoles bourgeoises monopolistes pour bien exploiter le peuple travailleur. C'est ça qu'il représente, en fait. Donc ensuite, moi, je dirais surtout qu'en fait, Elisabeth Borne représente finalement... elle représente une des figures de la caste sociale.
C'est-à-dire, dites-nous tout.
Faut pas oublier que cette dame-là, elle a validé, elle est favorable à la retraite à 65 ans, donc elle est favorable pour faire travailler les Français beaucoup plus longtemps. Elle est responsable. Alors moi, je suis chez les cheminots. Je vais vous dire que nous envoyait pas mal de torpilles ces dernières années. Hein, vous vous souvenez, c'est elle qui a finalisé la réforme ferroviaire et notamment la destruction des services publics, la libéralisation des services publics, etc., etc. Je vous rappellerai que c'est cette dame qui a. Donc en fait, on a l'habitude qu'en fait de avec ce gouvernement. Transition rime avec privatisation. Alors ils n'ont pas arrêté de nous bassiner en nous disant transition écologique par-ci, transition écologique par-là, puis finalement au bout du compte quand tu fais la synthèse de tout ce qui s'est passé, en fait ils n'ont rien fait. Aucune réponse concrète n'a été apportée pour des réponses concrètes et urgentes et immédiates par rapport à l'urgence écologique pour apporter des réponses concrètes à l'écocide, mais en fait ils ont apporté des réponses de casse sociale par privatisation.
Rafik,
c'est quand même incroyable.
Les défis qu'elle a devant elle sont très grands et ça c'est vrai, c'est une réalité. Mais j'espère qu'elle mesure pleinement ses responsabilités parce que aujourd'hui les défis écologiques sont la priorité numéro une. Je pense que
c'est pas le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français. Alors que le défi, pour moi, de la politique de Macron, c'est l'écologie actuellement.
Donc pour toi, le pouvoir d'achat n'est pas important.
Ah non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit que la priorité numéro un des Français, c'est le pouvoir d'achat.
Non, parce que tu te souviens quand même que Mme Borne avait dit quand même, en direct sur LCI et BF Merde, etc. Là, elle avait dit, je
sais,
qu'elle était contre, contre le coup de pouce du SMIC. Elle a dit clairement qu'elle était contre un coup de pouce du SMIC. Elle a voté alors que les riches continuent à s'enrichir en s'engraissant sur la misère d'autrui. Elle se permet de débarquer sur une chaîne nationale, dire moi je ne veux pas augmenter le SMIC. C'est ce qui s'est passé en décembre 2021. C'est cette dame là qui est passée première ministre. N'oublions pas aussi qu'elle a pulvérisé l'assurance chômage. Je vous rappellerai qu'à cause d'elle maintenant, pour être indemnisé au niveau du chômage, il faut travailler. Elle a fait passer de 4 à 6 mois les cotisations, alors que la plupart des CDD n'excèdent pas les 6 mois. Ça veut dire que la plupart des travailleurs travaillent. Déjà, ils sont pas de CDI, déjà, ce qui est pas normal. Ils enchaînent les CDD, donc ils ont une charge de travail qui a augmenté. Ils travaillent plus, et en plus de ça, la plupart du temps, les CDD n'excèdent pas les 6 mois. Ça veut dire qu'à l'arrivée, ils n'ont même pas le droit à l'assurance chômage. Ça, c'est ce que j'appelle de la maltraitance sociale. C'est de la casse sociale.
Rafik,
et elle va se prendre une torpille au niveau du Calvados, je l'espère, parce qu'en face d'elle, il y a un gars de la France Insoumise.
La France Insoumise, c'est lui d'ailleurs. C'est lui qui a fait cette déclaration, vous le savez.
Tout à fait.
Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous répondez
Sincèrement, moi,
Temgari
Ravik. Je ne connais pas très très bien, comment dirais-je, la ministre, la première ministre, mais je lui souhaite bonne chance parce que le défi est très très grand. Aujourd'hui, il faudrait qu'elle ait beaucoup plus de pouvoir vis-à-vis du président, chose qu'elle va en avoir, je l'espère. Mais c'est une dame qui travaille beaucoup. C'est une dame qui, ça lui arrive.
C'est une grande bosseuse.
C'est une très grande
bosseuse. C'est vrai.
Le mérite lui revient.
En même temps, le prolétariat,
elle a gagné beaucoup. Mais elle a surtout peut-être gagné la confiance de. Elle a surtout peut-être gagné la confiance d'Emmanuel Macron.
Tout à fait. Entre autres, en l'occurrence.
Mais stoppé, Rafik. Tu es en train de dire, elle travaille beaucoup. Bah, c'est bien pour elle qu'elle travaille beaucoup. Mais l'ouvrier qui travaille beaucoup, lui.
C'est pas la même chose.
En l'empêche de toucher ses allocations au chemage.
Jimmy se réveille.
Il n'y a pas de réponse concrète par rapport au pouvoir d'achat. Donc on s'en fout que travaille beaucoup.
Franchement, on s'en fout.
Le peuple travailleur travaille beaucoup aussi.
Qui met en place une politique est complètement différente d'un travailleur qui a tous les mérites, mais qui travaille différemment. Un ministre, il est là pour mettre en place une politique. Et c'est très compliqué. Elle fait pas. Il paraît, moi je ne la connais pas, mais il paraît qu'elle dort à 2h du matin et qu'elle peut renvoyer à 5h du matin des messages à ses collaborateurs pour travailler.
Non, je reviendrai pas sur la question de l'État parce que je crois que on serait pas d'accord sur la notion de ce que représente l'État en fait. L'État en fait si je t'écoute, ton discours consiste à dire qu'en fait le gouvernement et cet État représenteraient le peuple français. Moi ce que je dis
en l'occurrence oui.
Moi je fais partie de ceux qui consistent à dire que l'État représente. C'est un organe de domination et d'oppression d'une classe sur une autre. C'est ça qui est l'État.
On a la chance.
L'État ne représente pas. Non, mais si, l'État, c'est. Et tu le vois par leur politique de destruction sociale et qui s'oriente toujours vers l'enrichissement des uns et la paupérisation des autres. L'État ne représente pas.
Alors, Rafik va vous répondre. Rafik.
Et de plus, c'est propriétaire des moyens de production.
Rafik.
Sachez que vous êtes en France, et en France, c'est un pays démocratique.
Tiens donc,
et que les élections.
Bien sûr
que la France est un pays démocratique. Et croyez-moi, je peux le confirmer parce que j'ai une expérience internationale.
La France est un pays impérialiste.
Et je peux vous dire qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas la chance de pouvoir voter démocratiquement. C'est la voix du peuple.
En fait, la confusion que tu fais, c'est entre démocratie et conquête sociale.
Pas du tout.
Si, vous confondez démocratie et conquête sociale.
Aujourd'hui,
les 40 dernières années, on a vécu sur les conquêtes sociales qui ont été décrochées par la lutte des classes. Et vous faites la confusion. Entre lui
à parler vous écouter.
Ah bah vas-y, fini et je te répondrai.
Je dis
juste, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, il faudrait vraiment connaître la chance qu'on a d'être en France, un pays démocratique, et que actuellement, si cette ministre est là, c'est parce que c'est les Français qui ont voté pour elle. Ce n'est pas parce que c'est le président qui est passé.
Pas du tout.
Pas du tout.
T'as oublié les 30% d'abstention, t'as oublié le taux de vote en blanc, t'as oublié l'agitation propagande à travers les médias qui se sont appuyés sur la peur pour faire voter.
Chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Non, c'est faux ce que tu dis, elle n'a pas été élue.
Pas du tout. Les élections, c'était fait pour qui? Qui est-ce qui est parti voter? C'est les Français qui ont voté. C'est
non, les Français qui ont voté. 30% des Français n'ont pas voté. Parce qu'ils ont compris que s'ils votaient, ils votaient pour les mêmes.
Même s'il y a eu
donc la plupart n'ont pas été votés. Arrêtez de dire qu'ils ont été votés. Ils étaient 30% d'abstention.
C'est le peuple qui a voté.
Sans compter le vote en blanc.
C'est l'ensemble des citoyens français qui ont voté.
C'est faux ce que tu dis.
Non, pas du tout.
C'est faux que la plupart des Français n'ont pas voulu voter ou ont voté en blanc. Parce qu'ils considèrent que la plupart des candidats ne les représentaient pas. Et que de toute façon. Non, mais c'est faux ce que tu dis. T'as côté de la plaque. Si tu écoutes ce que disent les travailleurs, ils te disent que les politiciens sont tous des corrompus et que personne ne représente, aucun de ces politiciens ne représente leur intérêt.
C'est ça la réalité. C'est que
chacun son tour, s'il vous plaît, qu'on s'écoute parce qu'il faut que ça soit audible. Rafik, allez, je reprends le contrôle. C'est vrai, c'est très intéressant le débat qui s'installe parce que il est le reflet Jimmy Dalidou, effectivement, de cette France qui souffre.
Mais on est bien conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a jamais dit que la France est tout beau, tout rose. On a dit qu'aujourd'hui, il y a une vraie démocratie en France et c'est le jeu démocratique. Et il faut prendre un petit peu conscience de ce jeu démocratique. Aujourd'hui, on n'impose pas aux Français d'aller voter. Et c'est heureusement qu'ils ont ce choix-là d'aller voter ou de ne pas voter.
C'est vrai.
Aujourd'hui, c'est pas, les chiffres, ils sont représentatifs. Aujourd'hui, les
personnes. Parlez pas de la démocratie parce que quand on met en avant des revendications, on est ciblé par des LBD.
Mais monsieur, vous avez la démocratie en France de pouvoir.
Moi, c'est ce que j'appelle une dictature du capital.
Mais vous mélangez pas du tout.
Ah non, c'est toi qui mélange conquête sociale et démocratie.
Mais pas du tout. Je dis juste qu'aujourd'hui, vous parlez des manifestations, vous avez le droit de manifester en France.
Bah, c'est pas terminé.
Ailleurs. allez manifester ailleurs. Donc ne dites pas le contraire. Aujourd'hui, vous avez le droit de faire ce que vous voulez.
Bah, pendant les Gilets jaunes, il s'est passé en France comme ce qui se passait ailleurs, lorsque l'ordre de classe est établi et mis en danger. C'est-à-dire qu'il y a violence. Il y a violence. À partir du moment où il y a. Écoute-moi juste deux secondes. À partir du moment où la classe ouvrière et les couches populaires mettent en exergue une revendication concrète, s'orientant vers la modification de ces conditions d'existence, ils sont réprimés à coups de LBD. Mais alors votre notion de démocratie, vous la mettrez où, je pense?
Parce qu'un
il a droit une cloche. De pas répondre.
Oh là là, allez, débattons avec respect.
Très bien, je préfère.
Rafik, c'est mieux, avec respect. Rafik Tamgari.
Cette antenne. Sachez, mon cher monsieur,
respectons-nous les uns les autres. Voilà. On peut débattre et ne pas être d'accord, effectivement, mais pas de
violence policière, ça a été condamné. Pas d'insolence. On lutte envers ça. Mais la notion que vous devez avoir de la démocratie, c'est de dire, ok, il y a des personnes, il y a des Français qui n'ont pas allé au vote, d'accord, mais comment faire pour mobiliser ces Français qui reviennent aux urnes, qui reviennent voter, au lieu de dire, ça c'est pas la démocratie.
La base de la démocratie, c'est quand une solution. Non. C'est-à-dire qu'on se plie à la décision qui a été prise par le peuple souverain, par la majorité, notamment le peuple souverain.
Chacun son tour pour que l'auditeur s'y retrouve, s'il vous plaît.
On va pas revenir sur la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc., qui te démontre qu'en fait, le peuple souverain, c'est lui qui est la base, le ciment de la nation. Et à partir du moment où le peuple souverain prend une orientation, prend une décision, que cette orientation, que cette décision est orientée, organisée et qu'elle est finalisée par décision, alors il faut la mettre en pratique.
Nous allons avancer.
C'est une dictature du capital, et la bonne foi, comme beaucoup de pays dans ce monde.
Quand il y a une majorité qui a décidé, on suit cette majorité. Et c'est ça la bonne foi. Parce que quand on est...
Vous voulez l'entendre ça? Vous voulez pas l'entendre ça, Jimmy Dalidou?
De quoi?
Vous voulez pas entendre ce que vous dit Rafik Tamgari?
Vous avez bien vu que la majorité, quand elle se retrouve dans la rue, elle est martyrisée, elle est matraquée, on lui tire dessus à coups de LBD,
parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont dans la rue. Il y a aussi une infime minorité.
C'est pas du tout ce qui se passe. Et arrêtez alors, de vous baser sur les élections, parce que la plupart des Français n'ont pas été votés. Je le répète encore une fois, parce que vous essayez de légitimer un gouvernement qui n'est pas légitime.
Demander leurs droits correctement. La plupart des Français n'ont pas manifesté.
Il a été élu. Donc, démocratiquement.
Dans quelles conditions?
Il a été élu.
Bah, dites-moi les conditions. Voilà,
allez, 19h34.
Dans quelles conditions? Je vous rappellerai l'agitation propagande.
On va lancer la pub.
BFM et tous les médias courants.
Messieurs,
dernières années.
J'aimerais qu'on parle des législatives. J'aimerais qu'on parle des législatives, mais aussi également, vous savez quoi? Des quartiers.
Oui.
Et là aussi, c'est un enjeu. Un enjeu qui intéresse beaucoup. On va marquer la seconde et dernière pub et on se retrouve pour la dernière ligne droite.
Parfait.
Messieurs, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Vous pouvez aussi intervenir au 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Et les informés, c'est avec, vous savez quoi, Jimmy Dalidou, qui est auteur, mais également aussi représentant syndicaliste, mais également aussi Karim Tamgari, qui est un élu... Comment?
Rafik et pas Karim.
Rafik, pourquoi je vous ai appelé comment?
Karim.
Ah bah oui, bah autant pour moi. Rafik, bah oui, Rafik. Rafik qui est un élu sur la ville de Rueil-Malmaison. Tout de suite, direction le Standard. Jingle.
1, 53, 48, 3000. Les informés vous donnent la parole.
Messieurs, nous allons nous intéresser aux commentaires des auditeurs. Karim de Pantin. Bonsoir Karim. Allô? Karim, vous êtes avec nous en direct?
Oui, je suis là. Allô?
Bonsoir, on vous écoute.
Alors, bonsoir. Et bonsoir à vos invités.
Bonsoir.
Je voulais dire deux petites choses.
Alors,
la première chose, c'est que la France est le pays de déclaration des droits de l'homme et non pas le pays des droits de l'homme. C'est deux choses bien distinctes. Non, mais il faut... Parce que l'Angleterre, qui n'est pas le pays des droits de l'homme, hein, parce qu'elle n'a pas de déclaration des droits de l'homme dans sa constitution... Bah, les minorités sont beaucoup plus respectées qu'en France, et l'Angleterre est beaucoup moins condamnée que la France devant les instances internationales, par exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, excusez-moi, mais moi, j'ai été extrêmement déçu. Bon, je vais quand même voter, comment on dit, NUP ou NUPES, je ne sais plus comment on dit, enfin bref. Non, je vais voter.
L'Union de la populaire.
Ah, pardon.
Voilà. Je vais voter parce que, je ne peux pas rester sans voter. Et puis, bon, même une gauche imparfaite vaut mieux que pas de gauche du tout. Mais, moi, ce que je reproche, je pensais qu'avec le vote des quartiers populaires pour cette liste, on aurait eu au moins 20 à 25% des gens des quartiers populaires, au moins, en position d'être élu. C'est pas le cas, je suis extrêmement déçu. Ah. Mais je dis une chose quand même. Le problème, c'est que nous, les gens issus des minorités ou des quartiers, qui bien souvent sont les mêmes...
Hein, on va en parler là.
Alors, quand on va dans les partis, comme c'était l'exemple là, on n'arrive pas à trouver notre place parce que on nous met pas en position d'être éligible. Et quand on veut s'organiser, et je vais vous donner un exemple concret, on n'y arrive pas non plus, parce qu'à Nanterre, que je connais très bien, ils ont essayé de monter des listes où il y avait une majorité de Mohamed et de Mamadou. Ben, ça n'a pas été homologué parce qu'au nom de la lutte contre le séparatisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les partis ne veulent pas de nous. On nous interdit de nous organiser. Alors comment on fait pour s'en sortir?
C'est vrai. Ben justement, vous me permettez une belle transition, puisque nous allons parler des enjeux des quartiers populaires, les quartiers, les législatives, justement, l'union, tout cela. Maintenant, on fait quoi, n'est-ce pas? Un peu, ce ne sont les quartiers populaires, finalement, les oubliés. Et les élus des quartiers populaires qui commencent à critiquer, justement, les différentes tendances, les différentes mouvances politiques. Merci, Karim, d'avoir été avec nous. Et vous me permettez, là, effectivement, d'installer le second sujet. Rafik, vous dites quoi? Vous répondez quoi, effectivement? Les quartiers... il a tout dit, Karim, de Pantin.
Oui. Je lui donne complètement raison parce que c'est une lutte qui doit être menée tout le temps et transmettre un petit peu à nos enfants, aux futures générations, de s'engager politiquement aussi. Aujourd'hui, je fais le constat de deux choses. La première, c'est que très peu de personnes s'engagent politiquement. C'est que ces dernières années qu'on commence à avoir des noms de la diversité dans nos partis politiques diverses. Et ça, j'encourage vraiment l'ensemble des Français qui sont issus des minorités de s'engager dans la vie politique, que ce soit de gauche, de droite, de centre, mais ils doivent s'engager, ils doivent faire partie de ce paysage politique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est aussi important de s'organiser. Donc c'est bien ce qu'il cite, l'exemple de Karim, mais c'est vrai qu'on nous taxe très souvent de séparatisme, etc. Mais je pense qu'on est une communauté, on est des Français d'origine diverse, des minorités qui sont assez intelligents et qui ont de plus en plus de personnes qualifiées pour pouvoir les représenter. Donc il faut se battre. Il y a toujours des conflits. Je cite par exemple le dernier conflit qu'il y a eu des pourparlers entre l'UDI et le LR pour pouvoir positionner, parce qu'il y avait une personne qui avait un nom qui était Mamadou ou Mohamed, et l'autre qui s'appelait David ou y a... Mais il faut se battre, il faut créer ce lobbying, il faut créer cette force de frappe. Et après, pour les quartiers, c'est aux quartiers aussi de s'organiser. Moi, je vois dans
Comment
la ville, notre quartier, on a plusieurs quartiers dans la ville où j'habite, où ils invitent les candidats pour pouvoir les questionner, pour pouvoir un petit peu connaître plus leur programme, essayer. Donc l'ensemble, sachez que l'ensemble des candidats peuvent avoir des salles de la part de la mairie, des municipalités, et qu'il suffit juste que le futur député essaye de demander cette salle-là, elle est mise à disposition, et ils viennent, ils font des réunions publiques, et ils posent des questions. Et c'est des vraies questions qui concernent leur quotidien. C'est des choses...
C'est un exemple, effectivement, mais je pense que c'est un peu le cas aussi de différents quartiers populaires, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la question, ils interpellent les candidats, ils interpellent... Mais bon, la question, c'est comment place-t-on justement ces personnalités issues des quartiers populaires dans le cadre de ces législatives? Elle est là, la question. C'est là où le bas blesse, mon cher Rafik. Jimmy Dalidou, je reviens vers vous.
Je dirais que les quartiers populaires...
C'est ce que disait Karim, d'ailleurs, notre auditeur.
D'abord, les quartiers populaires ont toujours été laissés de côté et ont toujours été abandonnés dans ce pays. Pas seulement... il y a quelques partis qui reviennent vers eux, quelques candidats pendant les élections, très rapidement, qui sont de récupérer quelques voix, mais je crois que tous les trois, on connaît bien, tous les quatre avec Yanis, on a grandi là-bas, on sait ce que c'est. Être mis à devenir des marginaux du système français, c'est un petit peu ça qui se passe. Hein.
Ouais.
Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que ces cinq dernières années, les quartiers populaires étaient très, très investis dans les différentes luttes sociales. Je pense notamment aux gilets jaunes, mais pas seulement. Il y a eu la grève des cheminots, il y a eu la marche pour le climat, il y a eu la réforme des retraites. Dans toutes ces luttes, ils étaient présents. La plupart des mouvements antiracistes qui s'organisent et qui font ce qu'ils peuvent et qui portent des revendications pour lutter contre la montée du racisme et, j'ai pas peur des mots, de la montée du fascisme en France. Et ouais, la question qui se pose, c'est le problème qui se pose, c'est qu'on on s'intéresse à eux uniquement pendant les élections. Mmh. Et d'abord, et moi, il y a une question qui me pose problème, c'est quand qu'il y aura un véritable candidat issu des quartiers populaires, un véritable candidat issu de la diversité. C'est quand qu'on aura un Barack Obama à la française.
Non.
C'est quand il est où ce Barack Obama à la française? Il le faut. En France, on a l'impression dès qu'il y a un, alors je suis pas partisan de Barack Obama, vous connaissez mes idées, mais c'est l'image qui est véhiculée, je veux dire. Dès qu'on a des gars qui sont porteurs de convictions, porteurs de principes, qui ont vécu dans ces quartiers-là, qui ont un bagou, qui ont des idées, qui pensent par eux-mêmes, qui se sont éduqués parce que ça existe dans les quartiers. Ce sont pas des immigrés cervelés uniquement. Donc, et quand ils essaient de progresser, on les casse politiquement, et vous voyez bien, c'était Karim, je crois qu'il s'appelait Karim.
Karim, de Pantin.
Démontre bien. Dès que tu présentes une liste ou sur la liste, c'est marqué Mamadou, Karim, Farid, ça pose problème aux institutions françaises. Bon, dans ce cas-là, c'est un
Rafik,
problème.
Rafik Temgari.
Alors, je suis pas vraiment d'accord dans son analyse, parce qu'il y a quand même des villes où ça se passe très très bien. Il y a des quartiers où ça se passe très très bien. Moi, je parle de ma ville que je connais bien, et dans nos quartiers, on a d'excellent rapport avec l'ensemble des administrés. Et je peux vous dire que dans les deux ou trois dix quartiers, c'est les premiers où on a le plus grand taux de votants. Donc c'est des votants. Et une relation, ça se construit. Ça n'est pas du jour au lendemain. Une relation, ça se construit et ça doit être du donnant-donnant. Donc c'est une relation où on arrive à écouter
forcément du donnant-donnant.
Oui, mais cette relation doit aboutir à une modification de leurs conditions, en tout cas une amélioration de leurs conditions d'existence.
C'est le cas.
Et malheureusement, c'est pas le cas dans les quartiers populaires. Ils sont toujours autant en galère.
Moi, je vous invite à visiter les quartiers dits populaires.
Moi, je me concentrerai sur le terrain social, Parce que le problème aussi qui se pose, moi, ce qui m'agace un peu, vas-y, je finis juste ce que je voulais dire. Ce qui m'agace un peu, c'est que, alors, les élections et voter, effectivement, c'est important de voter. Mais on a l'impression que c'est la fin, la toute puissante fin et le summum à atteindre. Pour moi, l'élection, c'est un moyen. Pour arriver à une fin. Pour moi, ça reste qu'un moyen. La fin, notre fin à tous, fin FIN évidemment, c'est l'harmonie, la cohésion sociale, et c'est que tout le monde progresse. Dans une nation, c'est une croisée des destinées, c'est une harmonie des différentes destinées. Et tant qu'on a, alors, et ça se passe aussi par le développement des luttes sociales. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des luttes sociales, on le pointe de dur en disant, ah, vous voyez, les méchants ouvriers, travailleurs.
Est-ce qu'il y en a suffisamment?
Vous savez,
là, il y a toute une série d'investitures, qui sont notamment liées à des personnalités issues des quartiers populaires. Est-ce suffisant? Qu'est-ce que vous répondez? C'est pas suffisant.
Bien sûr que c'est pas suffisant. Aujourd'hui.
Ou alors c'est des miettes.
Système d'élection. Comment on met les gens comment on peut avoir l'investiture de son parti? Donc, dans certains partis, je pense que c'est un choix qui est fait en concertation. Dans d'autres partis, c'est un choix qui est imposé par là-haut. Et je pense que c'est plutôt ce type d'investiture qu'il faudrait changer. Mmh. Aujourd'hui, on n'investit pas un homme parce qu'il est d'origine diverse. C'est plutôt les compétences, c'est plutôt ses capacités à pouvoir gérer et prendre le poste. Attention, le prochain rendez-vous, c'est les législatives. Un législateur, il a une responsabilité assez grande.
Exactement.
C'est lui qui écrit les lois de ce pays, c'est lui qui débat sur l'intérêt général
au sein de l'hémicycle, exactement.
Donc, il faudrait vraiment que ça soit des personnes.
Je
dis juste que aujourd'hui, il faudrait pas qu'on choisisse une personne parce que elle s'appelle Mamadou ou Mohamed. C'est plutôt on choisit la personne qui risque, qui va bien me défendre, qui va connaître mes besoins et surtout qu'elle va mettre en place des solutions.
Le problème qui s'est posé, tu le sais bien aussi, Rafi, que le problème qui s'est posé, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec toi sur la personne, et quand je choisis pas une personne, mais on devrait s'orienter plutôt choisir les idées, se concentrer sur les idées, la ligne politique qu'elle véhicule et la ligne politique qui s'organise dans un parti. Ça, c'est important. Dans une organisation. Le problème qui s'est posé, c'est qu'en France, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, moi, mon père, il était militant du Parti communiste. Mon père adoptif, parce que mon père, je n'ai jamais connu. Bref, c'était un responsable du Parti communiste depuis eux, du PCF. Mais je vous parle de ça à l'époque, avant Georges Marchais. Ben, à l'époque, le Parti communiste français, c'était encore un grand parti, à composition sociale prolétarienne. Et il y avait beaucoup de prolétaires des quartiers populaires. Mmh. Et à l'époque, vous vous souvenez, c'est à l'époque des camions et et des Spirou, des porte-clés Spirou. Ben, à l'époque, vous aviez une cellule du Parti communiste français dans tous les quartiers populaires. Mmh. Et que, tu, que vous le vouliez ou non. Quand tu, alors je finis,
parce que a changé, cher ami.
Ouais, non, mais le problème qui se pose, c'est que la police. Non, ça a changé parce que les dirigeants en France ont organisé la casse politique du prolétariat organisé.
Les Français d'avant ne sont pas les Français d'aujourd'hui.
Les Français d'avant ne sont plus les Français d'aujourd'hui.
Les Français écrivent.
Oui, mais l'exploitation reste la même. Je suis désolé. Mais non, l'exploitation qu'elle soit il y a 40 ans et où, non, qu'est-ce non, qu'on non. attend, c'est
aujourd'hui,
la même.
Français,
le prolétaire, effectivement, le prolétaire du XXIe siècle,
beaucoup
il est doté de caractéristiques différentes. Mais le prolétariat
culture,
reste le prolétariat.
De connaissances politiques et qu'il arrive à écrire à 100 élus. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'ensemble des Français essayent
combien d'élus, tu sais ce que ça veut dire prolétaire? Est-ce que tu connais la définition du prolétariat?
Je pense qu'il le sait, non?
Tu la sais? Si tu veux, je te la donne. Si je pose la question, je connais la réponse.
Vas-y, dis-nous. Voilà.
Le prolétaire, auditeurs. C'est la personne qui a uniquement sa force de travail à vendre pour vivre et faire vivre sa famille. Il n'a pas de capital, il n'a pas de rente, il n'a rien d'autre que sa force de travail qui est vendue aux capitalistes. Et où est le prolétariat organisé, les housses, dans ce pays? Ça fait 40 ans qu'on empêche le prolétariat de s'organiser politiquement. Et ensuite, vous venez avec vos grands discours électoralistes en disant « Ah ouais, mais les prolétaires, ils sont tout seuls, ils s'engagent
alors,
pas
nuance.
Politiquement. »
Je me présente pas sur les listes électorales.
Ils se présentent de plus en plus, les prolétaires.
Ouais, mais dans ce cas-là, il faut les accepter. Et même, s'ils s'appellent Mamadou ou Farid ou je sais pas quoi.
Oui. Alors,
il nous reste 30 secondes. Je suis désolé. C'est déjà la fin de l'émission, hein.
Ah, ça passe vite.
Ça passe vite, oui, mais vous blablatez, c'est normal, vous êtes de grands débatteurs.
Bah, il faudrait juste dire que quand même, on y croit. C'est bon, et c'est très bon pour notre pays d'avoir de la diversité sur les listes. Et il faut les encourager. C'est le message que je donne.
Merci à Rafik Temgari, qui est un élu de Rueil-Malmaison, un élu conseiller municipal. Revenez vite, hein.
Tout à fait.
Ne disparaissez pas. Jimmy Dalidou, notre représentant syndical, CGT, mais merci également auteur, merci à vous deux pour ce débat extrêmement riche, fructueux. À la réalisation, c'était Yanis, tout de suite de 20h à 21h. Eh bien, c'est le maestro sportif Bilal Nedman qui vient s'emparer de la tranche 2021, qui va vous faire évidemment driver tout le sommaire sportif. Il va vous embarquer avec lui, évidemment, sur le sport et son programme. Enfin bref, je ne connais pas son programme, mais en tout cas, je sais que c'est toujours riche. À demain, on ne lâche rien, portez-vous bien. Demain, vous savez, c'est d'autres débatteurs, et on recevra Bernard Kosoko. Du côté
retrouvez
de
les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.